Je réponds tout de suite à ces questions posées. Père, pourriez-vous préciser le problème de la subsistance par rapport à celui de l'essence et de l'existence en philosophie première et dans le jugement de sagesse? Comprenez bien que ce problème de la distinction de l'essence et de l'existence se fait dans la lumière du Créateur. Ce qu'on essaie de déterminer, c'est que dans tout être créé, il n'y a pas la simplicité dans l'ordre de l'être. Et donc qu'on retrouve dans tout être créé une composition interne dans l'ordre de l'être, une composition radicale. Et cette composition, c'est la composition de ce qui est en puissance et de ce qui est en acte. L'essai est acte d'être et l'essence est ce qui est capable d'être actué. Donc le problème de la subsistance ne se pose pas là. C'est tout à fait différent, vous voyez. Le problème de la subsistance se posera, donc, comme nous l'avons essayé de le comprendre, au niveau de la substance. Là, il ne se pose pas. Je me pose la question, tout simplement, quelle est la complexité de l'être créé? Et la première complexité de l'être créé, comparativement à l'être premier, c'est justement d'impliquer cette composition. Alors, je pourrais dire, de fait, cette composition, elle implique une unité, cette unité, nous la retrouvons dans la substance et la subsistance. Mais ce n'est pas le problème. Et, donc, il faut bien préciser que le problème n'est pas cela. Autre question. Je vous avais dit que de lire autant que possible, si vous aviez le temps, dans l'être, de l'être à Dieu, le jugement de sagesse, le premier, puisque nous n'avons pas le temps de le lire ensemble. Donc je vous avais demandé de le lire. Je vous demanderai si vous avez des questions après, parce que je veux passer ensuite, et que c'est important d'essayer, autant qu'on le peut, saisir ce point de vue-là. Est-il exact de dire que la question de la causalité efficiente de ce qui est n'est vraiment valide qu'en théologie naturelle? En effet, au niveau proprement métaphysique, il semble que je ne regarde l'être ce qui est, qu'en tant qu'il est, sans pouvoir me demander d'où il vient. Alors que dans la lumière de l'être premier, je regarde l'exister de la réalité en tant qu'il est reçu de cet être premier. Et donc en tant qu'il y a une cause efficiente. Et si ceci est vrai, on pourrait en conclure que du côté métaphysique, on regarde l'être d'abord comme acte, ce qui est conforme à l'ordre de perfection de la réalité, alors qu'en théologie naturelle, on regarde l'être d'abord comme étant en puissance, dans ce qu'on appelle l'essence. Ce serait l'ordre génétique de la réalité. Oui, oui, il y a quelque chose de juste, et je reprends pour que nous comprenions bien. Proprement, dans l'analyse métaphysique, quand je recherche les causes de ceci est en tant qu'être, je pars toujours du jugement d'existence. Telle réalité moi-même, j'existe en tant qu'être. J'analyse, c'est-à-dire je cherche ce qu'est l'être. Et en découvrant, en interrogeant ce qu'est l'être, je découvre la substance. Je me pose la question ensuite, en quoi est l'être? Et je vois qu'il n'y a pas, ce que nous verrons, qu'il n'y a pas de cause matérielle propre de l'être. La matière n'est pas une structure propre de l'être. Ça, c'est capital de le comprendre. Et vous voyez que quand on dit que la distinction de matière et forme est la distinction principale de toute la philosophie d'Aristote et de saint Thomas, on oublie complètement que la matière ne fait pas partie estreinte. N'est pas une structure de l'être. Il n'y a pas de cause matérielle propre de l'être. C'est pas commode à le comprendre, mais c'est très important. C'est à ce moment-là seulement que vous pouvez purifier complètement votre intelligence de toute influence marxiste. Puisque vous savez bien qu'il n'y en a que deux qui ont dit que la matière était cause propre de ce qui est, Averroès et Lénine. C'est joli de voir ces deux qui se regardent. Averroès est dans deux contextes totalement différents. Donc, pas de cause matérielle. Quand j'interroge en quoi ceci est en tant qu'être, je dis, ça n'a pas de sens. En quoi est l'être? Tandis qu'au contraire, si je dis, qu'est-ce l'être? Ceci est en tant qu'être. Je réponds, il y a substance. On dit ici, rien. Si je me pose la question, d'où vient l'origine? Quelle est l'origine de ce que de ceci est en tant qu'être? Je réponds, rien. Encore plus subtil. Parce que immédiatement, en bon chrétien, vous dites, mais c'est le Créateur. Immédiatement, vous dites ça, mais la cause efficiente de ce qui est en tant qu'être, c'est le Créateur. Eh bien, attention, vous ne pouvez pas dire ça tout de suite. Ce serait de l'ontologisme. On est tous un peu ontologistes, hein, sous les bords. Il faut arriver à comprendre que lorsque je cherche l'origine de ce qui est, de moi-même en tant qu'être, je dis qu'il n'y a pas d'origine immédiate, propre. C'est très important, ça. Ce qui sauvegarde que l'ousia est cause propre de ce qui est. C'est l'ousia qui est cause propre de ce qui est. Et si l'ousia est cause propre de ce qui est, mais vous n'avez pas de cause propre d'efficience. L'être, il est. C'est ce que dit Parménide. Il est et il ne devient pas. Ça, c'est pas commode à bien comprendre. Hein. C'est pas commode. Et c'est très bon parce que ça nous purifie de tout l'ontologisme, vous voyez. Purification du marxisme, purification de l'ontologisme. Et c'est plus difficile de se purifier de l'ontologisme que de se purifier du marxisme. Beaucoup de bons chrétiens sont ontologistes. Beaucoup de bons chrétiens. L'ontologie s'est propagée d'une façon étonnante. Hein. Ça, c'est depuis Descartes, que voulez-vous. Descartes était chrétien, on est très heureux que Descartes soit chrétien, sans voir tout le mal qu'il a pu faire. Vous savez rien, il était chrétien. Donc, c'est très bien. Non, non, pas du tout. Il nous a orientés vers une manière de voir qui est dans de l'ontologisme. L'idée est première. Alors, purification de tout l'ontologisme par le point de vue justement de dire que ce qui est en tant qu'être n'a pas de cause immédiate au niveau de l'efficience. L'être, il est. En tant qu'il est. Il est. Il s'impose à moi. Alors, dernière question, en vue de quoi? En vue de quoi? C'est le point de vue de la finalité. Quelle est la fin de l'être? La finalité de l'être? Alors, c'est l'être. C'est l'être en marque. Vous avez donc deux principes propres, il n'y en a pas trois. Deux principes propres de ce qui est, la substance et l'acte. C'est pour ça que la métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que la causalité matérielle et la causalité efficiente on les dépasse. C'est le dépassement de ces deux causalités, matérielle et efficiente. L'être nous permet de dépasser ces deux causalités, alors que ce qui est mu, ce qui devient, implique les quatre causalités. C'est normal, hein ? Ce qui devient est plus complexe que ce qui est. La complexité de ce qui devient implique causalité matérielle, causalité efficiente. Tandis que la simplicité de ce qui est n'implique pas de causalité efficiente, n'implique pas de causalité matérielle. N'implique que la cause formelle et la cause finale. Uniquement ça. Donc, c'est net, je crois, de comprendre que dans l'analyse proprement métaphysique, la causalité efficiente n'intervient pas. Essayez de bien le comprendre, parce que c'est très important. Comme purification de notre regard sur ce qui est. C'est pas commode, hein, je vous l'avertis d'avance, parce que nous avons tous une espèce de complicité avec l'ontologie. Je crois que c'est la dernière chose que nous arriverons à purifier, ça. Un bon chrétien est ontologiste. C'est pas la grâce qui lui a été donnée par le baptême, mais c'est la paresse qui vient de lui. Alors il est ontologiste. Et alors c'est plus facile, c'est tellement plus facile de pouvoir dire, mais oui, j'ai l'expérience de Dieu en moi, immédiate. Confusion entre foi et intelligence. Et nous mettons du temps avant de bien discerner le point de vue de l'intelligence et de la foi. Parce que normalement, chez un bon chrétien, la foi poussait avant l'intelligence. On vous a appris à prier avant d'être intelligent. C'est peut-être heureusement, mais c'est comme ça. On vous a appris à prier avant d'être intelligent. Et puis petit à petit, vous avez éduqué, vous avez éveillé. Donc, il y a une priorité de l'acte de foi par rapport à l'intelligence. Et cette priorité de l'acte de foi avant l'intelligence fait que l'intelligence a eu beaucoup de peine de s'éveiller elle-même. Or, l'intelligence ne s'éveille pleinement elle-même que quand elle comprend qu'elle est ordonnée à ce qui est. Prius concepit, n'est-ce pas, la première chose qui tombe dans l'intelligence, primo cadit in intellectus est. Primo cadit. Tant que vous ne découvrez pas ça, votre intelligence n'est pas entièrement elle-même. Elle est conditionnée, elle cherche. C'est quelque chose de très très important. C'est pour ça qu'il faut y revenir tout le temps, sous des aspects différents. Parce que c'est la purification de l'intelligence. C'est l'intelligence qui se découvre, si vous voulez, comme radicale par rapport à la foi. Pas commode. Sans rejeter la foi, en la respectant encore plus. Mais c'est à ce moment-là où vous pouvez comprendre les rapports entre l'intelligence et la foi. Alors, deuxièmement, une fois que j'ai découvert l'existence de l'être premier, et que je vois le rapport qui existe entre moi-même, moi existant, et cet être premier, j'ai le problème de la création. C'est-à-dire cette relation qui existe entre moi et l'être premier. Et dans la lumière du Créateur, je me regarde. Me regardant dans la lumière du Créateur, c'est me regardant à travers la cause efficiente. Quand je me regarde à travers la cause efficiente, je me vois comme effet de l'acte créateur. Donc, je suis totalement dépendant de l'acte créateur. Mon exister est un exister participé, second. Et je suis totalement dépendant de l'être premier. À l'intérieur de la causalité efficiente. Je suis donc là en présence d'une causalité efficiente au niveau de l'être, mais au niveau de l'être premier.
C'est au niveau de l'être premier que la causalité efficiente se réintroduit, pas au niveau de l'être. Distinguons bien toujours ce que saint Thomas nous demande de distinguer. La ratio entis et l'être premier. La ratio entis, la raison d'être, que je connais à partir de toutes mes expériences que j'ai de la réalité, à partir du jugement d'existence, à partir de la découverte de mes substances, à partir de la découverte de l'être en acte. Cette ratio entis que je découvre au plus intime de moi-même, est-elle changée lorsque je découvre l'existence de Dieu, l'existence de l'être premier? C'est un très grave problème. C'est un problème qu'il faut se poser. La raison d'être que vous avez progressivement, en progressant en métaphysique, la raison d'être est-elle changée au moment où vous découvrez l'existence de l'être premier? Je crois que nous devons dire que nous posons l'être premier grâce à la raison d'être. Et si nous posons l'être premier grâce à la raison d'être n'ajoute rien à ma compréhension de l'être. Mais l'être premier ajoute un nouveau jugement d'existence qui va changer complètement mes rapports pratiques à l'égard de l'être premier. Vous voyez, c'est ça qui est important et qui est difficile là aussi à comprendre. Mais c'est très important. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que la ratio entis, lens, pris lui-même, lens, ce qui est, n'implique ni causalité, ni l'opposition à la causalité. La raison d'être est au-dessus du point de vue causalité ou non-causalité. C'est quelque chose de fondamental et premier pour ma vie intellectuelle. C'est très curieux, ça. Tandis que lorsque je précise ce qu'est l'être premier, je dis l'être premier n'est pas causé, il est incausé, et à partir de cet être premier absolument simple, je peux dire toutes les autres réalités que j'ai expérimentées moi-même, ce sont des êtres causés, parce que ce sont des êtres participés. Donc causé et incausé affectent non pas la ratio entis, mais tel être. Donc ça n'affecte pas la ratio entis, l'ens comme tel. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que si causé et incausé étaient impliqués dans la ratio entis, si c'est causé, votre ratio entis ne peut rien dire de Dieu. Si c'est incausé, ça prouvait que vous auriez une intuition directe de Dieu. Si votre intelligence est capable de remonter jusqu'à Dieu, il faut bien que la ratio entis soit au-delà du causé et de l'incausé. Autrement, je ne pourrais pas. Et tout ça, ça se tient. Mais c'est délicat parce qu'on est sur la crête. Et on voit comment si facilement on passe d'un côté à l'autre. Donc, c'est très juste de dire que lorsqu'il s'agit de la lumière de sagesse, je vois tout dans la lumière de la cause efficiente. Alors, si ceci est vrai, on pourrait en conclure que du côté métaphysique, on regarde ce qui est l'être. D'abord comme acte, d'abord comme substance, puis comme acte. Ce qui est conforme à l'ordre de perfection de la réalité. Ce qui est conforme à l'ordre de la structure et de la perfection de la réalité. Alors qu'en théologie naturelle, on regarde l'être d'abord comme étant en puissance. Je ne dirais pas ça. En théologie naturelle, dans le regard de l'être premier, c'est le regard de l'être premier qui est premier. Donc, c'est l'acte pur. C'est dans la lumière de l'acte pur que je vois moi existant, ou toute réalité existante, toute réalité autre, et je les vois comme dépendants, je dirais en premier lieu, plutôt comme dépendants, comme suspendus à l'être premier. Tout est, et c'est ça le regard de la théologie naturelle. On voit que tout est suspendu à l'être premier. Tout est polarisé par l'être premier. Et parce que tout est polarisé par l'être premier, c'est distinct de l'être premier et c'est totalement relatif à lui. Alors, je verrai ensuite que ces êtres participés impliquent une limite, parce que c'est l'être participé, et en tant qu'ils impliquent une limite, ils impliquent une potentialité. Et donc, ce n'est pas tout de suite, il faut mettre quelques petits médias entre deux, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas dire que le regard de la théologie naturelle regarde l'aspect génétique. Oui, un aspect génétique qui n'est plus génétique, parce que c'est le génétique de l'être. L'aspect génétique d'habitude, c'est l'aspect génétique du devenir. Or là, je suis en face du génétique de l'être. C'est le propre du regard de la théologie naturelle. Le génétique de l'être, vous comprenez bien que pour moi, il est au-delà du génétique et du parfait. La distinction, autrement dit, que vous voyez bien, ça nous permet de mieux préciser justement ce que représente exactement ce regard de théologie naturelle. Quand je suis dans une recherche d'analyse, j'ai un ordre génétique. Je passe de l'imparfait vers le parfait. Deuxièmement, il y a un ordre de perfection. Je crois que c'est très important, cette distinction. Cette distinction, vous voyez, respecte la distinction entre devenir et être. Or, c'est capital de distinguer devenir et être, sans les séparer. Là, nous sommes vraiment du devenir. Et ici, nous sommes dans l'ordre de l'être. À la face du parfait, à la parfait. Ça, c'est l'ordre de perfection. L'ordre de perfection, où ça ne doit pas dire encore dans les natures. Et ceci, cette distinction, repose directement sur la distinction devenir et être. Dès que vous acceptez la distinction devenir et être, vous comprenez qu'il y a deux ordres différents de connaître. Je connais par le devenir, de l'imparfait vers le parfait. Je connais dans un ordre de perfection, donc à partir de la structure même de l'être. Il y a un troisième ordre, ordre de sagesse. L'ordre de sagesse n'est ni un ordre de perfection, ni un ordre de génétique. C'est un dépassement à l'égard de ces deux ordres. Et cet ordre de sagesse, c'est regarder tout dans la lumière du Créateur, de l'acte pur. Et donc, je commence par le parfait pour regarder l'imparfait. Puisque je commence par le parfait pour regarder l'imparfait, c'est bien l'ordre de perfection. Et en même temps, dans cet ordre de perfection, je découvre un ordre génétique au niveau de l'être. Donc il fait la synthèse des deux ordres. Vous voyez, cet ordre de sagesse, il implique un ordre de perfection, il implique un ordre génétique, mais un ordre génétique qui n'est plus l'ordre génétique habituel, puisque je regarde tout du point de vue de l'être. Mais génétique en ce sens que je regarde à partir de la cause efficiente. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette distinction donc de l'essence et de l'existence? Oui.
Qu'est-ce que c'est que l'essence? Quelle est la nature de l'essence puisqu'il n'est pas une raison, une belle chose? Est-ce que c'est un être de raison?
Ah non, c'est pas un être de raison. C'est une distinction réelle fondé dans la réalité, c'est comme l'être en puissance. L'être en puissance n'est pas un être de raison. C'est une réalité que je saisis à partir de l'acte. Une réalité complexe. Dans la lumière du Créateur, vous apparaissez, vous, complexe. Vous êtes composé. Hein? Bien évident. Vous existez en acte et vous existez d'une manière composée parce que vous n'êtes pas un être simple. Dans la lumière de l'être premier apparaît toute votre complexité. Quelle est cette complexité? Elle est premièrement cette distinction fondamentale de votre être entre l'essai et l'essence. L'essai, c'est votre acte, votre essai participé. Vous avez un essai qui est totalement dépendant de Dieu. Et nécessairement, puisque cet essai participé, il est reçu dans quoi? Dans votre essence. Alors, essayez de la toucher, votre essence. Hein? Vous voyez que votre essence, vous ne pouvez la toucher intellectuellement que à partir de l'acte premier, à partir de votre essai participé, vous touchez l'essence. C'est très enveloppé l'essence. Hein. Comme c'est caché, c'est quelque chose de très caché. Il y a deux, l'acte pur, donc la simplicité absolue de Dieu, la simplicité de l'être premier, puis votre essai participé. La simplicité absolue de Dieu met en pleine lumière l'essai participé. Et l'essai participé met en pleine lumière mon essence. Donc mon essence n'apparaît qu'en fonction de deux modalités d'actes. Et comme c'est enfoui. Vous ne la saisissez pas tout de suite, votre essence. C'est pour ça que quand je pars de l'essence tout de suite, je tombe dans l'ontologisme tout de suite. Parce que je crois saisir l'essence, mais non, vous ne la saisissez pas, l'essence, vous saisissez votre nature, vous saisissez votre substance, mais pas l'essence comme telle. L'essence, ce qui est en puissance, c'est la potentialité métaphysique. Alors c'est la chose la plus difficile, on télescope tellement facilement cette potentialité métaphysique. Alors vous voyez, c'est le danger d'aujourd'hui. On est tombé de l'ontologisme vers l'existentialisme. Alors, tous ceux qui sont un peu... La mode aujourd'hui, c'est de mettre un thomisme existentialiste. Ça, c'est le truc de Gilson, n'est-ce pas ? Et de Maritain. Alors, mettant le point de vue thomiste, le Saint-Thomas, dans l'ordre existentialiste, vous supprimez la puissance au plan métaphysique. C'est très curieux, ça. Mais c'est important de saisir que l'essence ne se dévoile à mon intelligence, c'est mon intelligence qui saisit mon essence. Elle ne se dévoile qu'à partir de mon essai participé, qui lui-même ne se dévoile qu'à partir de l'être premier. Puisque je n'ai pas l'expérience directe de l'essai participé. Donc il y a deux actes qui me dévoilent l'essence. Deux actes qui sont très proches l'un de l'autre, hein, mais il faut les deux pour dévoiler l'essence.
Oui. Ça veut dire qu'on ne devrait pas parler d'essence en métaphysique.
Oui, c'est ce que je crois. Et comme la métaphysique provient de la théologie, voyez, on parle tout de suite de l'essence. En théologie, ça ne me gêne pas. Mais en métaphysique, ça me gêne beaucoup. Parce que, mais où est-ce que vous la saisissez, votre essence? Moi, je veux bien, mais quoi? Vous saisissez votre nature. Oui, ça oui. Vous saisissez votre nature, mais vous saisissez votre essence. Qu'est-ce que c'est que votre essence? Alors, si vous dites essence égale nature, très bien, mais employez plutôt nature, ça vaut mieux. Dites ça, venez, ou bien alors dites la définition logique, homme, animal, raisonnable, c'est l'essence de l'homme. Mais non, ne disons pas que c'est l'essence de l'homme, disons tout simplement que c'est une définition logique. Quand vous définissez l'homme, animal, raisonnable, c'est une définition logique, n'en faites pas une définition métaphysique. Beaucoup trop dangereux. Et puis, c'est pas une définition métaphysique. Oui.
Est-ce que mon essence est la même que celle de mon voisin? Et qu'est-ce qui me permet de vivre?
voyez, votre existence est-elle la même que celle de votre voisin? Bon, vous existez, vous, dans votre autonomie. Avec l'avance totale de Dieu, mais vous existez dans une certaine autonomie. Votre voisin a la même autonomie. Vous vous retrouvez au niveau non pas de l'être, au niveau de l'intentionnalité. Vous êtes capable de lui parler, vous êtes capable de l'aimer. Donc vous vous retrouvez au niveau de l'intentionnalité, pas au niveau de l'être. Votre être, vous met dans une solitude absolue. C'est pour ça que la physique n'est pas aimée, parce qu'elle nous met dans une solitude absolue. L'autonomie de notre être et la dépendance radicale de notre être à l'égard de Dieu. Alors, votre essai participé, tout à fait d'accord, il est autre celui du voisin. Or, vous touchez l'essence à partir de votre essai participé. Alors, votre découverte de l'essence des deux côtés se fait de la même façon, par l'essai participé. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que cet essai participé de mon voisin et de moi sont distincts spécifiquement? Non. Vous avez l'être à l'homme. Et donc votre être, c'est l'existence d'un homme. Et celle de votre voisin, c'est l'existence d'un homme. Donc c'est la même existence spécifiquement. Elle est distincte individuellement. Donc si elle est distincte individuellement, c'est très bien, je le sais. Mais l'individualité n'est pas l'essence. Donc, vous pouvez dire que votre essence est la même que votre voisin, parce que votre essence est celle d'un homme. Et vous ne le dites pas tout de suite. Ça ne vous intéresse pas du reste directement, parce que bon, ce qui vous intéresse, c'est de regarder directement la complexité de la créature comme créature. C'est ça qui m'intéresse, dans la distinction d'essence et d'existence. Oui. Est-ce que vous voyez bien?
Oui, mais en fait, pour être rigoureux, et si on continue, si vous avez dit qu'on ne peut pas parler d'essence au plan proprement métaphysique, ça n'a même pas de sens de dire l'essence de l'homme au sens propre.
Oui, on peut le dire après, une fois que j'ai découvert ici. Une fois que je découvre ici, je vois mon exister est complexe, celle du cheval aussi, celle de toutes les réalités sont complexes. Dans toute créature, je distingue une distinction d'essence et d'existence. Alors je peux me poser la question, est-ce que je peux mettre une graduation du côté de l'essence? Je dirais oui, du côté de l'essence, je vois qu'il y a diverses essences, forcément. Parce que chacun est distinct individuellement et distinct spécifiquement. Oui, alors je retrouve une analyse après coup, mais qui n'a pas un intérêt. Au fond, je découvre la nature humaine pas par l'essence, je découvre la nature humaine par les opérations de l'homme. C'est le vivant qui m'intéresse. Et découvrir que dans l'homme, il y a l'âme et le corps, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui m'intéresse pour préciser la nature de l'homme. Préciser la nature de l'homme à partir de l'essence, c'est un peu compliqué. Vous voyez, je vois la difficulté que j'ai de saisir l'essence. Alors, dans le langage courant, il faut toujours bien distinguer, puisqu'on fait de la métaphysique, on fait de la philosophie aussi avec ceux qui en font de la métaphysique à côté de nous. Dans le langage courant de la scolastique dite thomiste, il est bien évident que le mot essence a pris une importance énorme. Et on traite cette question-là comme thèse thomiste. Dans tout être créé, il y a distinction réelle entre essence et existence. Si vous regardez un des grands moments de la fin de la scolastique, Leibniz, vous verrez dans Leibniz, le mot essence joue un rôle capital. Et c'est pour ça que le mot essence demeure dans Sartre. Et c'est pas du tout ça que je dis ici. Dans la Sartre, le mot essence existe. Essence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, une potentialité. L'essence, c'est ça. Au fond, ça remplace nature. Ça remplace substance. Ça remplace tout. Essence est devenu le mot leitmotiv qui a remplacé tout. Et c'est pour ça que je crois qu'on a avantage, encore une fois, sans faire des disputes de mots, parce que ce n'est pas intelligent. Donc on accepte que les gens emploient les sens autrement, ça n'a pas d'importance. Sans faire de disputes de mots, il faut quand même essayer de comprendre à quel moment apparaît l'essence au sens rigoureux. Et je crois que quand on fait ça, cet effort-là, ça nous aide à beaucoup mieux comprendre le mot « essence » qui s'est employé de façon générale grâce à Leibniz. Leibniz, c'est la philosophie de l'essence. C'est pour ça que la première interrogation de Leibniz, c'est de se demander pourquoi telle réalité existe plutôt que n'existe pas. C'est fameux comme question. Et Heidegger dit ça, c'est la première question philosophique. Moi, ça n'a jamais été ma première question philosophique. Quand vous voyez quelqu'un, tiens, tu existes, et tu pourrais très bien ne pas exister. Première question. Donc, contact avec l'individu, c'est dire, tu existes, mais tu pourrais très bien ne pas exister. Non, c'est un peu compliqué. Tu existes, mais qui es-tu? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Puis après, on verra la fragilité de ton être. Et en voyant la fragilité de ton être, on verra que tu es suspendu à l'acte créateur. Et parce que tu es suspendu à l'acte créateur, tu aurais pu très bien ne pas exister. Tu dépends d'une volonté de Dieu et d'une volonté actuelle du créateur. C'est très vrai. Donc tu aurais pu très bien ne pas exister. Mais voyez, cette question de la limite est très très intéressante parce qu'elle montre très bien comment le point de vue a été changé de place. La première question, cet être, il existe, mais il pourrait très bien ne pas exister. Donc, vous regardez l'essence, la capacité d'exister, et vous considérez que cette capacité d'exister ou de ne pas exister est première. L'essence est connue directement, avant l'existence. Oui. On peut le dire, vous voyez, dans le sens que je disais tout à l'heure, où vous voyez que votre distinction à côté de votre voisin n'est qu'une distinction accidentelle, individuelle. Vous avez la même nature. Si vous avez la même nature, vous pouvez dire que votre essence est spécifiquement la même. Mais vous voyez, vous passez par la nature, vous ne pouvez pas directement. Au niveau de l'être en puissance, je peux dire ça en métaphysique. On ne le dira pas en métaphysique, parce que je ne vois pas très bien l'intérêt, vous voyez. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Mais si vous me posez la question, pouvons-nous dire ça? Je dirais par la nature. Vous voyez. C'est toujours intéressant de voir quel est le métaxu qui me permet de dire ça, pour montrer que ce n'est pas un problème métaphysique. Et c'est vrai. L'identité spécifique que j'ai avec mon voisin, c'est un problème de quoi? C'est un problème de logique. Et donc la logique a comme fondement la nature. Et c'est pour ça que c'est par la nature que je passe. Mais ce n'est pas un problème métaphysique. Au niveau logique, vous voyez, au niveau logique, ce sera l'espèce. Vous voyez, c'est l'espèce. C'est pas tellement l'essence. Qu'est-ce que c'est que l'espèce? C'est le fruit du genre et de la différence spécifique. Mais vous direz que le fondement de l'espèce, c'est la nature. Et beaucoup diront que le fondement de l'espèce, c'est l'essence. Parce qu'ils confondent l'essence et la nature. Mais en réalité, en logique, n'apparaît pas l'essence. C'est la nature, fondement de l'espèce. Et c'est l'espèce, le terme logique. Parce que c'est la synthèse du genre et de la différence spécifique. La cause de l'essence? Vous posez la... Quelle est la cause de l'essence?
L'essence est capacité d'exister, donc être en puissance. Alors, quelle est votre cause de l'essence? Un être en puissance, il est un être en puissance, je ne me pose pas la cause, la raison de la cause d'un être en puissance. Je me cherche toujours les causes d'un être en acte, toujours, ou en devenir, et pas un être en puissance. Parce que l'être en puissance, c'est déjà une évolution. Oui. Alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est que, là, je voulais vous coller pour votre expression. C'est que vous voulez montrer que Dieu est cause de toutes les essences. Est-ce que c'est juste de dire ça? Non. Il faut dire que Dieu est cause de tous les êtres, et par les êtres, il est cause de leur essence. Dieu ne cause pas des essences directement, puisque c'est un être en puissance. On ne cause pas un être en puissance. On le cause toujours par l'acte. C'est la fameuse question que saint Thomas pose à propos de la matière. Est-ce que Dieu cause la matière? Il dit jamais la matière toute seule, il cause la matière par la forme. Il crée telle nature, telle réalité qui implique la matière. Oui, c'est le même problème, puisque vous avez forme-matière et vous avez essence. Donc vous avez acte et puissance. Or, on ne peut pas dire que Dieu crée directement la matière. Il la concrète. Alors je dirais la chose ici. Il crée des réalités qui ont telle essence. L'essence est concrète. Oui. Nous allons commencer. Oui, dites. Ah oui, oui, on peut faire une analogie, parce que c'est un être en puissance. Vous voyez, toutes les analogies de la distinction, être en acte et en puissance, on peut faire une analogie. C'est là où on voit très bien, vous voyez, que les analogies, c'est terrible. Parce que si, quand vous faites l'analogie, ça va. Mais le moment où votre intelligence n'est plus en acte d'analogie, vous faites ça et vous tombez dans l'université. Et vous dites que l'essence est la matière. Mais ici, les analogies que nous pouvons faire entre être en acte et être en puissance. Et l'essence, c'est du côté de l'être en puissance. C'est pour ça que j'avais dit en métaphysique, le moment où vous pourrez découvrir l'essence, c'est découvrir comment la substance est réceptive de l'essai. Et en tant qu'elle est réceptive de l'essai, elle est d'une certaine manière une essence. Mais ce n'est pas direct. Oui, je sais. Entre l'essai et l'essence. Mais parce qu'au fond, il est un théologien. Toujours la même chose. Il est un théologien, alors dans la perspective du théologien, c'est toujours à partir de la cause du Créateur. Or, la composition première au niveau créature, c'est essai et essence. Et donc, qu'est-ce qui va, au-delà de cette division, maintenir l'unité? La subsistance. Vous voyez? Et si vous transposez ça, c'est ce qu'on fait, la scolastique a transposé ça en métaphysique. Si vous transposez ça en métaphysique, alors vous n'y comprenez plus rien. Moi, j'avoue, je ne comprends rien. Parce que vous mettez deux petites réalités qui de fait ne sont pas séparables. Elles sont distinctes réellement, mais je ne peux pas les séparer. Tandis que si vous posez le problème de la subsistance à partir de la substance et à partir de l'individuation, c'est tout à fait différent. Parce que là, vous êtes justement dans le jugement d'existence. Mais vous pouvez l'employer ici, moi je veux bien. Vous voyez ? Mais je dis, ce n'est pas directement le problème. Pas directement le problème, puisque le jugement de sagesse essaie de comprendre la différence qui existe entre la simplicité absolue de Dieu et la composition de l'être créé. Je suis un être créé, Quelle est ma première complexité? Ma complexité fondamentale. Alors si on allait un petit peu plus loin, voyons, on verrait justement cette complexité est source de tous les complexes. Ça ne peut pas être autrement, n'est-ce pas? Cette complexité, cette complexité est très fondamentale. C'est ce que Kierkegaard appellera l'être fêlé. Nous sommes tous des êtres fêlés. Il y a en nous tous une fêlure métaphysique. Cette fêlure métaphysique, n'est-ce pas? Cette fêlure métaphysique, elle est ce qui est source de tous les complexes. Et donc, cette première fêlure métaphysique de l'essence et de l'existence est source de tous les complexes. Le complexe majeur que jamais un psychanalyste ne pourra découvrir. Le complexe majeur, c'est que mon essence n'est pas mon existence. C'est très embêtant, ça. Mon essence n'est pas mon existence. Donc, il y a une fêlure. Et par le fait même, je peux ne pas exister. Je rejoins la limite. Et je rejoins l'angoisse métaphysique. Le vertige à l'égard du néant. Et c'est très vrai, ça. C'est très vrai qu'il y a là une fêlure fondamentale, radicale, qui est la distinction des sens et des sens.
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.